parole du jour avec le Père Willem.
Comme François d'Assise, prenons le temps. Est-ce possible? Prenons le temps de contempler au jardin. Le jardin apporte un apaisement intérieur, mais aussi une conscience que l'on pourrait appeler optimiste de la beauté et de la bonté de l'univers. Il accompagne et favorise ainsi une certaine quête de la sagesse. Autant de bienfaits qui n'ont cessé d'interpeller la culture occidentale. Ce qui donne sens et valeur à la vie humaine, pour la philosophie antique, c'est la contemplation de la nature qui est étude, spéculation, mais spectacle. La contemplation, en grec, theoria, désigne initialement l'acte d'examiner et plus fondamentalement de regarder. Ah, regarder, c'est un acte important dans l'existence d'un homme. En avez-vous conscience? Grâce à la contemplation, chaque jour est donc une fête splendide pour l'homme de bien, écrit Plutarque au tournant des 1er et 2e siècles. Car le monde est un temple souverainement auguste et digne de la majesté d'un dieu. Afin d'atteindre le bonheur, le sage s'engage dans une existence qui lui est consacrée. Il s'efforce non seulement de considérer les choses d'en haut, mais d'appliquer ses connaissances de physique pour survoler le cosmos en pensée, se situer lui-même partie du tout du monde ou de l'infini des mondes. Dieu introduit l'homme ici-bas pour le contempler, lui et ses œuvres. Veillez donc à ne pas mourir sans avoir contemplé toutes ces réalités. Met en garde Épictète avec la même certitude. Il vivait à la même époque d'ailleurs. En quoi le jardin favorise-t-il une attitude de réceptivité active à ce qui nous entoure et qu'apporte-t-il la contemplation? La question requiert de reprendre en compte l'épaisseur de cette notion dans la culture européenne, irréductible à la seule jouissance esthétique. Épictète prévient encore en disant ceci. Il est des gens qui, comme les bêtes, ne s'inquiètent de rien que de l'herbe, du fourrage. Tous ceux qui n'ont d'autres sujets de préoccupation que leur avoir, leur champ, leurs serviteurs, leur magistrature, sans se demander ce qu'est le monde. Pourtant, on peut se le demander au jardin, oui, se demander ça au jardin, en étant assis sur un banc, à partir du moindre coin de prairie. C'est ce que suggère le père Hichecaume au début du XVIIe siècle. Si donc vous fichez les yeux de votre esprit par une sage méditation sur la beauté de ces herbes, si vous contemplez attentivement leur feuillage, leur verdure, leur façon, leur bizarrerie, si vous percevez leur bien est présent, ne dites-vous pas en vous-même que c'est un Dieu tout-puissant qui a tout fait pour vous, toutes ces merveilles, par sa seule parole, et qu'en considération de cette puissance, il vous faut le craindre qu'il est tout sage, les ayant ou bien ordonnés, et partant qu'il le faut admirer. Eh bien, du stoïcien au jésuite, le sot n'a bien sûr rien d'immédiat et passe par l'abrupte solution de continuité, par la si forte ligne de partage des eaux entre les conceptions panthéistes et monothéistes du rapport soit immanent, soit transcendant du Dieu au monde. Et aussi par 15 siècles durant lesquels le christianisme a nettement infléchi l'approche de la contemplation dans une perspective théologique et métaphysique plutôt qu'éthique et physique. Pour saint Augustin, les hommes s'en vont admirer les âmes dans les montagnes, la grandeur du cosmos, alors qu'ils se délaissent eux-mêmes. Mais il est en leur pouvoir de savoir et d'interroger la beauté de l'univers, car, comme le dit l'apôtre Paul en Romains 1, 20, pour le créer, l'invisible de Dieu se fait voir à l'esprit. C'est à partir de la théoria, et plus particulièrement dans son acception conceptuelle chez Plotin, qui a vécu de 1205 à 1290, comme voie d'accès à l'absolu, au principe suprême, à l'un, culminant dans l'extase mystique qu'une élaboration doctrinale plus ou moins systématique s'emploie à thématiser les degrés de prière et la connaissance intuitive de Dieu. Le christianisme orthodoxe fait même de la théorie une illumination qui précède la théorie, l'union avec Dieu. Ainsi, le théologien Richard de Saint-Victor distingue au XIIe siècle différents modes ou niveaux cognitifs associés respectivement à l'imagination, la raison et l'intelligence à l'aide de métaphores corporelles, alors que la cogitation rampe au sol et que la méditation marche ou parfois court, la contemplation vole librement, comme la pensée du sage antique, accompagnée d'émerveillement et de joie, prépare à l'extase. À la fin du XIIIe siècle, Guillaume Durand, évêque de Mende, la relie explicitement au jardin de l'espace monastique. Le cloître représente la contemplation dans laquelle l'âme se replie sur elle-même et où elle se cache après s'être séparée de la foule des pensées charnelles et où elle médite les seuls biens célestes. De l'Éden à la Jérusalem céleste, en passant par le Cantique des Cantiques, le motif biblique du jardin informe obsessionnellement les visions de certains mystiques. La carmélite florentine Maria Maddalena dai Pazzi, qui a vécu de 1566 à 1607, par le grand jardinier divisé en croix, tel un cloître dont les quatre chemins sont reliés au cœur, aux mains et à la bouche de Jésus. Comment tenir ensemble l'observation et maintenant de la petitesse finie d'une trouffe d'herbe et de la pensée de l'infini, outrepassant toute expérience sans cette jointure que constitue la création divine, introduire dans le monde une jolie plantation de bambou. C'est encore possible, mais il me paraît douteux que le planteur réussisse à introduire le monde dans son bois de bambou. C'est ce que déclarait, entre autres, un sage ermite taoïste, ce futur maître du jeu, du parler, de ce vers dans le roman de Hermann Hesse, ce grand écrivain allemand. Ce qui est présent et qui sort à notre regard, que ce soit les fleurs du jardin, les arbres de la forêt, la mer et le ciel, les étoiles, ou même, pour l'astronome, les arcanes de l'univers, tout cela se donne sur le fait de ce qui paraît inépuisablement riche en présence, en manifestation possible. La nature.